Europe Soir,
le 18-20.
Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec le journal. Et juste après, on ouvre comme chaque soir le Club des idées. C'est le nouveau rendez-vous d'Europe Soir. On vous décrypte le monde qui change. Ce soir, la 5G qui fait peur. Progrès nécessaire pour les uns, folie pour les autres, qui poserait des problèmes de sécurité et de santé publique. Que faut-il en penser? Pourquoi une telle défiance? Et les innovations technologiques sont-elles vraiment un progrès social? On en débattra avec nos invités dans 20 minutes. 19h15, la carte blanche du Club des idées. Ce soir, c'est l'écrivain et esprit libre Alexandre Malafaille qui s'y colle. Mais d'abord, le journal. Avec vous, Isabelle Millet. Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Je ne sais pas si le gouvernement a pris la juste mesure de ce qui nous attend et de la catastrophe qui nous attend là en septembre-octobre.
Après un été bleu-blanc-rouge pour le tourisme, septembre s'annonce morose, jusqu'à 70% de réservations en moins dans les grandes villes.
5 personnes naturalisées ce matin par Emmanuel Macron à l'occasion d'une cérémonie au Panthéon. Nous entendrons leur fierté d'intégrer cette République.
À droite, la rentrée politique des Républicains suspendue à la décision de François Baroin 2022. Ira pas? L'intéressé fait durer le suspense.
Le procès des attentats de 2015 avec des accusés absents mais omniprésents.
Alexei Navalny a bien été empoisonné par les Russes, mais comment la communauté internationale doit-elle réagir? Ce sera l'œil de Didier François. Et puis on prendra la température dans tous les sens du terme de l'équipe de France de foot à la veille de son match contre la Suède.
Et puis la tendance météo avec Anissa, la France est coupée en deux demain.
Oui, et c'est la Loire qui va servir de frontière. Donc si vous nous écoutez, que vous vivez au nord de la Loire, demain ça sera plus nuageux et plus frais. Au sud, là c'est l'été qui se poursuit. Je vous détaille la journée de demain à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'était en plein cœur de l'été. Le secrétaire d'État au tourisme faisait un rêve que les Français continuent à partir en septembre pour relancer la machine économique sinistrée.
Septembre, nous y sommes et les premières tendances, eh bien, ne sont pas terribles du tout, hein, Pauline Jacquot.
Oui, selon les derniers chiffres des professionnels du tourisme, les réservations chutent de 70% dans les grandes villes. Paris, Lyon, Marseille, des baisses de 20 à 30% dans les régions balnéaires, le Nord, la Bretagne, l'Aquitaine, le Sud-Est de la France. Les retraités, la clientèle habituelle des mois de septembre et octobre, est absente cette année, selon Hervé Beckham, de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.
La peur, la crainte de la recrudescence de la maladie les empêche de voyager, les empêche de se déplacer. Et c'est un manque important dans notre activité aujourd'hui. Je ne sais pas si le gouvernement a pris la juste mesure de ce qui nous attend et de la catastrophe qui nous attend là en septembre-octobre.
Le gouvernement qui tient à rassurer justement, non, l'arrière-saison n'est pas perdue. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, met en avant une mobilisation de l'État aux côtés des hôteliers et des restaurateurs.
On a jusqu'au 20 septembre la campagne hashtag cet été je visite la France, donc beaucoup sur le numérique, le digital. Et puis à partir du 20 septembre, justement, on est vraiment sur une logique de continuer à faire la promotion du territoire en redéployant les moyens que nous consacrions auparavant au grand international.
Mais les professionnels pour le moment ne sont pas franchement convaincus. Il n'y a aucun signe positif pour les deux mois qui viennent, disent certains. À Marseille, un hôtelier regrette même perdre en ce moment tous les bénéfices engrangés en juillet et en août.
Merci Pauline Jacquot. Un broglio autour du port du masque à Lyon et à Villeurbanne.
Oui, après Strasbourg et pour le tribunal administratif de Lyon enjoint au préfet du Rhône d'assouplir ses arrêtés concernant l'obligation généralisée de porter un masque dans ces zones. Le préfet a donc jusqu'à mardi pour revoir sa copie. Il devra rédiger un nouvel arrêté qui ne concernera cette fois que les zones à forte densité et aux horaires où ce port du masque est vraiment nécessaire.
Emmanuel Macron au Panthéon a célébré ce matin les 150 ans de la République française. Il a prononcé un discours marqué par un appel à la lutte contre les séparatismes. Il a également dénoncé ceux qui s'en prennent à la police et aux élus.
Il promet d'aller plus loin, plus fort dans les semaines qui viennent pour promouvoir l'égalité des chances, priorité du quinquennat. Chaque citoyen, quel que soit le lieu où il vit, le milieu d'où il vient, doit pouvoir construire sa vie par son travail, par son mérite. Nous en sommes encore loin, trop loin de cet idéal, a-t-il déclaré.
Oui, et il a également dénoncé ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre et aux élus. Ils ne passeront pas, a-t-il dit, le chef de l'État qui a par ailleurs insisté sur l'égalité des chances.
Emmanuel Macron a officiellement naturalisé 5 nouveaux Français. Une Algérienne, une Camerounaise, une Péruvienne, un Britannique et une Libanaise. Elle s'appelle Rana Mitri. Elle est arrivée en France en 2012. Elle a entamé ce processus de naturalisation fin 2018. Elle est aujourd'hui médecin à l'hôpital de Créteil, en banlieue parisienne.
Ce que je retiens, c'est qu'on devient français, c'est vrai, mais on va défendre la République. Donc c'est vrai qu'on ne va pas oublier nos origines. Mais en même temps, on devient français et on a des droits et des devoirs envers la France. Et c'est ce qu'il faut continuer à faire de par notre parcours, nous, professionnels, de par notre vie quotidienne et de par l'éducation de nos enfants. Je veux dire, éduquer mes enfants aux valeurs de la République, défendre leur patrie. Il n'y a pas que le Liban, parce que mes enfants sont également libanais, mais il n'y a pas que le Liban, il y a la France aussi. Mes enfants, leur langue maternelle, c'est le français, ils sont nés ici. Du coup, leur patrie, c'est la France et le Liban, mais la France et le Liban.
Rania Mitri, l'une des cinq personnes naturalisées donc ce matin par Emmanuel Macron au Panthéon. Elle était au micro européen d'Adrien Beck. La droite fait sa rentrée. Les Républicains sont réunis jusqu'à demain à Port-Marly dans les Yvelines. Un rendez-vous sur lequel plane l'ombre de la prochaine élection présidentielle de 2022.
Avec la proposition du maire de Nice, on en a parlé, Christian Estrosi, de soutenir Emmanuel Macron qui a suscité, on le sait, une levée de boucliers et soulevé des questions. Qui pourra représenter la droite en 2022 et comment choisir ce candidat?
Aurélie Herbemont, vous êtes sur place pour Europe 1. Alors vous nous disiez, Aurélie, en début de semaine, qu'il y avait plusieurs candidats qui commencent à sortir du bois, mais celui que l'on attend, c'est surtout François Baroin.
Oui, le maire de Troyes sera là demain, mais à droite, plus grand monde ne se fait d'illusions sur sa décision. Rares sont ceux qu'il voit se lancer dans une aventure présidentielle. Il a montré tous les signaux d'une absence d'envie, glisse un dirigeant. François Baroin est pour le moins discret dans le débat public. Il aurait pu profiter des municipales pour se montrer, peste un cadre. Même Nicolas Sarkozy, proche du patron des maires de France, ne le ménage plus devant ses visiteurs. Si on ne pense à la présidentielle qu'un jour sur deux, ce n'est pas la peine, dit l'ancien chef de l'État. Alors à droite, beaucoup pensent à 2022, mais François Baroin moins que les autres. Certains de ses amis évoquent une volonté de protéger sa famille, car une présidentielle, c'est une épreuve. Évidemment, une candidature Baroin arrangerait beaucoup de monde chez LR, mais si son absence d'ambition présidentielle se confirme, le parti devra se trouver un autre champion. Son entourage continue toutefois à entretenir le mystère, en expliquant qu'il fera connaître son choix et les raisons de ce choix plus tard. Mais ici, beaucoup espèrent que si c'est vraiment non, il ne fera pas mariner trop longtemps sa famille politique.
Aurélie Herbemont qui suit donc pour Europe 1 ce rendez-vous de la jeunesse républicaine. Au lendemain de la présentation du grand plan de relance, Nicolas Hulot était sur Europe 1. L'ex-ministre de la transition écologique a notamment réagi à l'enveloppe de 7 milliards d'euros sur 10 ans débloqués pour le développement de la filière hydrogène.
Une annonce qu'il ne peut que valider, lui qui lors de sa nomination avait présenté un plan en faveur de cette nouvelle énergie.
Très sincèrement, je salue cela. Moi, je suis convaincu que l'hydrogène va jouer un rôle majeur dans la transition énergétique. Je pense qu'à terme, très rapidement, les flottes de camions, les flottes de véhicules municipaux, les trains sur les petites lignes, et probablement dans l'aviation et dans la marine, va pouvoir jouer un rôle très important pour décarboner les transports. Donc il est temps, parce que sinon on va perdre la main sur ce sujet-là, et ça va faire partie, à mon avis, des technologies de pointe sur lesquelles on va pouvoir réindustrialiser la France. Donc, ça c'est bien, parce que c'est un des rares engagements du plan de relance qui va au-delà de 2022, et c'est pour moi c'est important, parce que la mutation et la transition ne va pas se faire en deux ans, c'est peut-être un des défauts notamment de ce plan de relance, c'est de ne pas voir au-delà de 2020.
Nicolas Hulot à la mi-journée avec Patrick Cohen, un journal suivi d'une grande interview. C'est votre nouveau rendez-vous de la mi-journée, donc sur Europe 1, entre 12h30 et 13h. Lundi, à ne pas rater, ce sera avec Lionel Jospin.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite de votre journal à 19h09 avec Isabelle Millet, on parle maintenant de la troisième journée du procès des attentats de janvier 2015.
Et on va retrouver sur place en direct Justin Morin qui a suivi cette audience. Justin, on a surtout parlé des absents aujourd'hui avec l'audition de la sœur d'Ayat Boumediene.
Oui, soyons clairs, Keltoum Boumediene n'est pas coupable, mais c'est la dernière à avoir parlé à Ayat Boumediene, la compagne d'Amédi Coulibaly. C'était il y a presque un an par téléphone. Donc pour les parties civiles, elle sait forcément quelque chose. Elle est une des clés de ce procès. Keltoum Boumediene commence par décrire sa sœur, une petite fille qui ambitionnait de devenir prof d'histoire, traumatisée enfant par le décès de sa mère. Sa rencontre avec Amédi Coulibaly en 2007, elle est alors amoureuse et épanouie. Puis elle commence à porter le niqab. Sa sœur constate bien qu'Ayat Boumediene est de plus en plus pratiquante, mais jamais, elle le jure, elle n'aurait imaginé qu'elle participe aux attentats de janvier 2015. Keltoum Boumediene raconte ensuite son émotion quand sa sœur l'a rappelée pour la première fois, 4 mois après les faits, puis la dizaine d'appels qui ont suivi jusqu'à l'année dernière. À l'écouter, elles prennent des nouvelles l'une de l'autre, rien de plus, jamais elle ne dira où elle se trouve. Que retenir de tout cela? Maître Metzger, avocat des parties civiles, tire la première flèche. « Vous êtes la seule qui puissiez nous aider », implore-t-il. « Elle ne vous a rien dit en 5 ans, juste ça va, on ne peut pas vous croire ». Keltoum Boumediene encaisse, mais jure de tout faire pour aider la justice. Et si je garde un lien, se justifie-t-elle, c'est parce que j'ai l'espoir qu'un jour, ma sœur me dise « je veux revenir en France ».
Merci beaucoup Justin Morin, en direct du Palais de Justice de Paris. A noter que le numéro de Charlie Hebdo dans lequel ont été republiées les caricatures de Mahomet a été épuisé dès le premier jour, 200 000 exemplaires écoulés, 3 fois le volume habituel, il est en cours de réimpression.
À l'étranger, on reparle de l'empoisonnement d'Alexei Navalny. Cette fois, ça ne fait plus aucun doute. On sait qu'on lui a bien donné à son insu un puissant neurotoxique d'origine militaire russe.
Et l'OTAN demande des éclaircissements sur ce programme chimique théoriquement abandonné par Moscou. C'est l'œil de Didier François ce soir sur Europe 1. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Le Kremlin, bien sûr, fait la sourde oreille. Qu'est-ce que peuvent faire les Occidentaux, Didier? Regarder les opposants à Vladimir Poutine se faire empoisonner les uns après les autres?
Non, là, ils sont vraiment obligés de réagir, et particulièrement les Allemands qui ont vraiment l'impression d'être pris pour les jambons, parce que non seulement le Kremlin continue de nier toute implication dans cet empoisonnement, alors que la molécule utilisée, le Novichok, ne peut être sortie que d'un arsenal ou d'un laboratoire militaire, donc une structure a priori sous strict contrôle étatique. Mais qui plus est, les services de propagande ont activé tous leurs agents d'influence dans les médias traditionnels, ainsi que leurs usines à trolls sur les réseaux sociaux, pour diffuser massivement les hypothèses les plus farfelues des médecins de la ville de Homs, où Navalny avait été originellement hospitalisé, et qui suggèrent que le principal opposant à Vladimir Poutine se serait auto-intoxiqué par un régime alimentaire fortement alcoolisé, donc c'est très élégant, ou bien alors qu'il aurait été empoisonné par les Allemands afin de discréditer la Russie. Donc c'est la version moderne du procès stalinien des blouses blanches. C'est quand même très insultant pour Berlin et puis pour la chancelière Angela Merkel, qui le prend assez mal, au point d'envisager donc des sanctions économiques contre la Russie pour avoir violé le traité d'interdiction des armes chimiques dont elle est pourtant signataire.
Est-ce que tout ça peut avoir un effet, Didier, sur Moscou?
Alors ça dépend bien sûr de la nature des sanctions qui seront prises. Il y a des discussions qui sont en cours en ce moment même à l'OTAN et à l'Union européenne, avec quand même des Allemands très remontés, qui n'excluent pas des sanctions dans le domaine gazier, avec l'arrêt par exemple du financement du gazoduc très stratégique de Nord Stream 2, ce qui ferait vraiment mal au Kremlin, parce que l'exportation de gaz, eh bien, c'est sa principale ressource. Et le simple fait d'ailleurs qu'une menace pèse sur ce projet se paye déjà assez cher, puisque hier, la bourse de Moscou a commencé à dévisser, et elle est aujourd'hui avec 3% en moins, avec aussi une baisse notable du rouble par rapport au dollar.
Impact économique important. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Les sports maintenant, et les supporters du Barça qui respirent de nouveau. C'est la fin d'un feuilleton qui a tenu la planète foot en haleine. Leur star, leur héros poursuit l'aventure pour une saison encore, Lionel Messi, qui reste donc à Barcelone, mais pas forcément de gaieté de cœur. Le PSG pourra-t-il jouer ses prochains matchs alors que 6 joueurs du club ont été dépistés positifs au Covid? 3 nouveaux cas confirmés, Marquinhos, Icardi et Keylor Navas. Lui aussi a été contrôlé positif.
Steve Mandanda, le gardien des Bleus, il ne participera donc pas au déplacement de l'équipe de France qui joue demain en Suède pour la Ligue des Nations.
Et c'est un match que vous nous ferez vivre en direct pour Europe 1. Cyril de la Morinerie, vous êtes déjà sur place en Suède. Didier Deschamps espère remettre la machine en route après 10 mois de pause forcée. Cyril, quelle est l'ambiance sur place chez les Bleus?
Eh bien, c'est une ambiance particulière, a avoué Didier Deschamps. C'est même une situation anxiogène, a ajouté le sélectionneur en conférence de presse. Ce sont 22 joueurs et non 23 qui sont en effet arrivés en Suède, avec 2 gardiens seulement, Loris et Maignan. Steve Mandanda est resté en France après un contrôle positif au Covid-19 qui a fait beaucoup parler. Le gardien de l'OM l'avait déjà été mi-août à son arrivée à Clairefontaine en début de semaine. Et après avoir joué à Brest avec l'Olympique de Marseille, bien tout était normal pour lui. Mais les 2 tests PCR passés mercredi et jeudi se sont révélés positifs. Interrogé il y a quelques minutes, le sélectionneur Didier Deschamps n'a pas voulu s'aventurer sur un terrain qu'il ne connaît pas.
Comprendra qui pourra. Hein, ça ne va pas faire avancer l'équation. Je n'ai aucune compétence dans le domaine médical, donc je ne vais pas m'aventurer à donner des explications. Je pense que dans certaines situations, il vaut mieux la fermer.
On s'adapte, a tempéré le capitaine Hugo Lloris. Les Bleus n'ont désormais plus qu'une hâte, jouer pour penser à autre chose et prendre leur revanche en Suède. Il y a 3 ans, sur une erreur d'Hugo Lloris, les Bleus s'étaient finalement inclinés 2-1.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe 1 en Suède.
Merci Isabelle pour l'info. La météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
La météo avec vous Anissa, et ça s'annonce plutôt pas mal pour le week-end.
C'est un beau week-end effectivement, un week-end de fin d'été, début d'automne, mais il sera un petit peu plus frais ce week-end, surtout sur la moitié nord. Les températures baissent demain avec 19 à 21 degrés en Bretagne et en Normandie, 22 à 25 degrés sur la région parisienne et jusqu'à l'Alsace. Sur la moitié sud, demain le thermomètre là, dépasse les 30 degrés. à Lyon, en Avignon, à Carcassonne, à Nîmes, à Chambéry, à Bastia, à Toulouse ou encore à Grenoble. Dans le ciel, eh ben c'est pareil, c'est-à-dire que sur la moitié nord, nous aurons des nuages demain matin qui vont se dissiper dans l'après-midi pour laisser place à quelques éclaircies. Et puis sur la moitié sud, là, c'est soleil radieux. Attention tout de même sur le golfe de Gascogne et le golfe du Lion. La journée va commencer avec des entrées maritimes qui seront tenaces sur le Pays Basque.
Merci Anissa, beau programme en perspective. 19h16, on ouvre maintenant comme chaque soir le Club des Idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes du Club des Idées, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, cette carte blanche, elle est offerte à un écrivain qui est aussi entrepreneur. Il a monté sa première boîte à 18 ans avant de rejoindre des grands groupes. Il est aussi un esprit libre, comme l'on dit. Bonsoir Alexandre Malafaye.
Bonsoir Julien.
Merci d'avoir accepté notre proposition de carte blanche. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, vous nous dites ce soir, la réforme du Conseil économique et social pourrait bien nous sauver. Vous voulez nous parler d'innovation démocratique.
Absolument. Ce soir Julien, je vous propose une révolution coup de cœur. Nous sommes en train d'assister à la naissance de la démocratie participative avec la réforme du Conseil économique, social et environnemental, le fameux CESE.
Alors pardon d'être un peu poil à gratter, mais moi on m'avait dit que le CESE ça servait pas à grand chose.
Oui, mais en fait personne ne sait vraiment ce que c'est que le CESE, Julien. Un mot d'explication si vous m'y autorisez.
Allez-y.
Dans la Constitution, le CESE est la troisième chambre de la République. Il représente la société civile, organisée. Plus de 200 conseillers nommés qui viennent de tous les horizons. Le monde associatif, le monde syndical, les entreprises, les défenseurs des animaux, les chasseurs, la culture, les agriculteurs et même la Croix-Rouge. Le CESE, c'est un peu de nous tous et il est bien plus représentatif de la société que ne le sont l'Assemblée nationale ou le Sénat. Le CESE, c'est, voilà, c'est ça. Mais il est vrai que jusque-là, les propositions du CESE étaient rarement prises en compte.
Et il y a donc...
Avec cette réforme, ça va changer.
Il y a donc une réforme qui est engagée, c'est ce que j'allais vous dire.
C'est ça, il y a une réforme et une réforme qui repose en fait sur trois piliers. Le premier pilier, c'est la réduction d'un tiers du nombre de conseillers du CESE. Et surtout, ça va être la fin d'une pratique qui était celle de l'exécutif, qui était la nomination de conseillers, de personnalités qualifiées. En clair, c'est la fin du copinage. Ensuite, le CESE va être consacré comme étant l'assemblée recevant et organisant la participation citoyenne. Selon les sujets qui lui seront confiés, le CESE sera en capacité de choisir entre plusieurs modes de participation citoyenne. 1. La consultation via des plateformes. 2. Le travail en commission avec des citoyens tirés au sort. Ça a déjà été expérimenté depuis 2 ans et ça a donné de très bons résultats. Et 3. La convention citoyenne. La première édition est plutôt réussie.
Oui, on en a beaucoup parlé d'ailleurs. Et le troisième principe ?
Alors le troisième principe, c'est la subrogation. Alors je m'explique.
Qu'est-ce que
c'est
que
ça ? Si le Premier ministre le souhaite, pour un projet de loi déterminé, il peut saisir le CESE. En lieu et place des innombrables comités Théodule, agences et diverses hautes autorités qui existent en France. Pour votre information, il y en a 430, dont 60 sont, selon leurs compétences, incontournables. Pour bien comprendre le problème, on peut prendre le cas concret du projet de loi formation. Il a fallu passer devant 14 instances différentes qui ont rendu autant d'avis que personne n'a bien sûr écouté. Cette fois, il n'y aura qu'un seul avis et il sera joint à la loi. C'est simple et c'est efficace.
Voilà, c'est l'administration française dans toute sa splendeur.
Pardon pour cette
petite malice. Et vous pensez que ça peut changer les choses donc ?
Mais oui Julien, cette fois on est dans le concret. Demain, le CESE apportera au gouvernement des propositions élaborées au plus près du terrain, avec les Français, avec vous, avec moi, en concertation avec ceux qui sont proches du terrain. On sera dans la réalité du quotidien, pas dans les arcanes hors sol du pouvoir. Surtout, avec cette réforme, le citoyen va mettre le pied dans la porte de l'élaboration des politiques publiques. Et quand le citoyen entre dans une institution de la République, il est compliqué de l'en déloger, Julien. Bien sûr, on aurait pu rêver d'aller plus loin. Pour cela, il aurait fallu passer par un vote du Congrès. Mais le Sénat, qui ne veut faire aucun cadeau au président de la République, bloque tout. Et tant pis si l'intérêt général en souffre. Alors souhaitons bon vent à cette réforme qui sera examinée à l'Assemblée nationale en septembre, car il y a urgence à tenir la promesse du candidat Macron, celle du renouveau démocratique.
Le CESE va changer nos vies, vous nous dites ce soir. Eh bien, j'espère que vous serez là dans un an pour vérifier s'il a bien changé nos vies. Merci en tout cas pour cette carte blanche, Alexandre Malafaye.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on est toujours en direct dans Europe Soir à 19h23. On ouvre à présent, comme chaque soir, le grand débat du Club des Idées. C'est l'un des grands sujets de cette rentrée. Faut-il avoir peur de la 5G ? Présenté comme le socle de la 4e révolution industrielle, le déploiement des antennes doit débuter cette année. C'est un enjeu colossal pour notre avenir, nous dit-on. raison, mais de plus en plus des voix s'élèvent et réclament des moratoires. Alors que faut-il en penser? Ce soir, on va démêler pour vous le vrai du faux, impact sur la santé, sur l'environnement, menace aussi sur notre souveraineté numérique et puis notre modèle de société tout simplement. Les innovations technologiques sont-elles forcément un progrès social? On en parle ce soir avec Nicolas Guérin, président de la Fédération française des télécoms. Bonsoir. On en parle avec Nicolas Bérard, journaliste et auteur de 5G mon amour, enquête sur la face cachée des réseaux mobiles, c'est aux éditions Le Passager clandestin. Bonsoir.
Bonsoir.
On en parle également avec Stéphane Dubreuil, spécialiste des télécoms et de l'énergie. Bonsoir Stéphane Dubreuil. Et avec Delphine Jamet qui est avec nous par téléphone, adjointe au maire de Bordeaux, le maire de Bordeaux Pierre Urmic. Vous êtes en charge, madame, du numérique. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors d'abord, pourquoi la 5G est-elle la technologie d'avenir qu'on nous annonce, Nicolas Guérin?
Alors, la 5G, c'est d'abord une technologie qui va permettre effectivement d'aller 50 fois plus vite que les technologies précédentes. Et c'est aussi une technologie qui fait entrer le mobile dans le monde de la quasi-instantanéité. C'est-à-dire que les téléphones et les réseaux communiquent de manière quasi instantanée. Mais ce serait un petit peu, ce serait extrêmement réducteur de réduire la 5G à ces deux avancées. Je crois que la 5G, c'est d'abord une réponse à des attentes des consommateurs, de plus en plus de débit, de plus en plus d'usage.
Oui.
C'est aussi une réponse à une question qui est l'aménagement du territoire. Ça va permettre effectivement d'apporter plus de débit dans certains territoires dans lesquels les réseaux fixes ne peuvent pas aller. Et c'est aussi surtout une réponse à une attente très forte de l'industrie. On parle d'industrie 4.0.
Oui.
C'est un enjeu de compétitivité qui doit permettre à notre société, à notre pays, de se doter des technologies de demain capables de concurrencer tout ce qui se développe en Asie ou en Amérique.
Alors justement, Stéphane Dubreuil, votre avis également, vous êtes spécialiste des télécoms et de l'énergie, est-ce que c'est vraiment une révolution à ne pas rater? Parce que monsieur évoque la rapidité demain pour tout à chacun, hein, pour le quotidien des utilisateurs et des clients, mais ça permettra aussi, j'ai lu ça, hein, de faire des opérations de téléchirurgie à distance, de développer des nouvelles applications industrielles avec peut-être demain des usines qui fonctionneront toutes seules, d'avoir des voitures autonomes qui roulent également toutes seules. Voilà, c'est pas comme l'avait dit Eric Piolle, juste pour regarder des films X en HD dans l'ascenseur, on est d'accord.
Oui, alors je ne comprendrai pas cette phrase-là, mais il est vrai que la 5G pour juste faire du Netflix n'a aucun intérêt et aucun sens. Le vrai sujet, comme ça a été dit précédemment, c'est qu'on entre dans un nouvel univers et c'est une rupture. C'est une rupture pourquoi? Parce qu'en fait, la dorsale technologique de l'économie de demain, ça sera la 5G. Et ça, ça ne fait aucun doute. C'est pour cette raison que vous avez un conflit sino-américain actuellement, c'est qu'il y a des enjeux, c'est que l'économie va basculer massivement et va utiliser cette dorsale technologique. Et
oui.
Aujourd'hui, effectivement, il y a une course entre différents pays. On voit bien qu'en plus, on sort d'une période économique compliquée. Si on a un pays européen qui prend du retard, quand on va installer des usines ou certaines sociétés, on aura toujours nos petits voisins pour dire bah, « nous, c'est déjà fait », puisqu'effectivement, chez nos voisins, c'est le cas. Donc, à ce titre-là, oui.
Quelques points de repère et puis on marque une première pause et on va rentrer dans le vif du débat avec les problèmes que ça pose, hein, la peur sur les ondes, la peur aussi sur la sécurité et l'indépendance de la France et puis des questions plus philosophiques également sur le modèle de société que nous voulons pour demain. Quelques points de repère avec vous, Nicolas Bérard, vous êtes journaliste, spécialiste du sujet, auteur d'un livre, je le disais, sur la face cachée des réseaux mobiles. Combien y a-t-il aujourd'hui d'antennes 4G déployées sur le territoire et combien y en aura-t-il demain pour la 5G ?
Alors, je me tourne vers... Je ne sais pas combien il y a d'antennes
exactement,
je
n'ai
pas le chiffre
répondre.
En tête, mais vous allez pouvoir nous le dire.
En fait, vous avez 40... Ça dépend ce que vous appelez une antenne, mais disons qu'il y a 85 000 sites mobiles aujourd'hui en France. Sites qui émettent des ondes.
D'accord.
Exactement.
85 000.
Mais quand on dit site, on vise aussi bien une antenne sur un toit terrasse qu'un château d'eau, qu'un pylône.
Est-il vrai, parce que c'est ce que j'ai lu en préparant l'émission, que pour la 5G, il faudra 30% de plus de relais sur le territoire national?
Non, pas du tout et pas dans les prochaines années. En fait, les obligations que nous aurions à l'issue de l'attribution des fréquences, c'est de déployer 10 500 sites, 10 500 antennes d'ici 2025. Et ces 10 500 antennes vont être une reconversion des antennes 4G. On va réutiliser les antennes 4G pour mettre de la 5G dessus et diffuser en 5G en complément de la 4G.
Je vous pose la question parce que c'est un point central des inquiétudes des Français et puis d'un certain nombre de maires écolos. On en parle dans quelques secondes. Faut-il avoir peur des ondes de la 5G? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et à 19h31, on est toujours en direct dans le grand débat du Club des Idées. On parle ce soir de l'un des grands sujets de cette rentrée qui électrise. Faut-il avoir peur de la 5G avec Nicolas Guérin, président de la Fédération française des télécoms, avec Nicolas Bérard, journaliste, avec Stéphane Dubreuil, spécialiste des télécoms et de l'énergie, avec Delphine Jamet qui est en direct par téléphone avec nous et qui est adjointe au maire de Bordeaux. Il s'appelle Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, et il a demandé un débat sur les dangers de la 5G. Justement, madame, vous êtes en charge du numérique pour la ville. Pourquoi avoir demandé ce moratoire et ce débat public sur l'impact sur la santé de la 5G, alors que vraisemblablement un certain nombre d'études disent l'inverse?
Alors d'abord, nous n'avons pas demandé un moratoire et faire un débat sur l'impact juste sanitaire de la 5G.
Alors que demandez-vous ?
Nous demandons un moratoire et un débat sur la 5G et sur tout ce qu'elle implique, en fait, au final. Donc effectivement, on n'a pas aujourd'hui de rapport indépendant sur l'impact sanitaire, ça c'est sûr. Donc même l'ANSES le dit, et le rapport, on n'a même pas le rapport de l'ANSES sur cette technologie.
On va en parler,
deuxièmement,
oui.
Deuxièmement, on n'a pas d'impact carbone et d'impact environnemental de cette technologie. Donc, il faut aussi attendre ce genre de rapport pour pouvoir se prononcer.
Mais est-ce qu'on peut rester le petit village gaulois dans notre coin et être à la traîne des autres pays quand les Allemands, les Britanniques, les Italiens se sont déjà lancés, que la Chine compte déjà 100 millions d'abonnés, idem en Corée du Sud, idem aux États-Unis, qui a déjà commercialisé depuis avril 2019 cette 5G? Est-ce qu'on peut passer à côté de ça, nous les Français?
On ne dit pas qu'il faut passer à côté de ça, on dit qu'il faut attendre un petit peu, se poser et débattre de ces choix technologiques. Ensuite,
mais voyez l'enjeu, madame, au moment où on parle de compétitivité et de réindustrialisation.
Il peut y avoir, oui, mais rien n'empêche un site industriel d'implanter la 5G sur son site industriel, si vous voulez. Après, aujourd'hui, ce qu'on parle, et tout à l'heure, j'ai bien écouté votre intervenant qui disait qu'il y aura 10 000 antennes en plus, mais finalement, pas tant que ça, parce qu'on va les mettre sur les antennes 4G,
oui.
Et ce qui est vrai pour le moment. Et en plus, par contre, aujourd'hui, il manque d'antennes 4G dans des territoires ruraux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ces antennes 4G. Donc là, on va en mettre plus dans ces territoires ruraux. Mais encore, faut-il espérer que ça aille un jour dans ces territoires ruraux. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les expérimentations ne se font que dans des métropoles qui sont déjà bien équipées. Et donc, rien n'empêche aujourd'hui d'attendre un petit peu, de regarder. Puisque surtout, ce que je tiens à dire, c'est que nous ne sommes pas les seuls à le demander. C'est-à-dire qu'il y a aussi des opérateurs qui le demandent, ce moratoire. Vous avez des sénateurs qui demande ce moratoire, vous avez beaucoup de monde qui demande ce moratoire, vous avez même la Convention citoyenne qui demande ce moratoire, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le même contexte mondial qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a un contexte mondial économique, et je l'entends, mais vous avez aussi un contexte mondial de dérèglement climatique et qui fait aujourd'hui l'unanimité à travers le monde, et donc il faut étudier ces impacts.
Alors,
et
on va
aujourd'hui,
poser
on arrête les antennes la nuit parce qu'elles sont trop consommatrices d'électricité.
Alors, on va en parler de l'impact environnemental, c'est un autre sujet, mais vous avez raison, c'est un sujet important aussi dans le débat. On va en parler de l'impact sanitaire avec Nicolas Bérard. Vous êtes journaliste et auteur donc de 5G, mon amour, enquête sur la face cachée des réseaux mobiles. Votre conclusion, si j'ose dire, faut-il avoir peur des ondes et sont-elles dangereuses pour la santé?
Avoir peur des ondes, non. Il faut regarder les études scientifiques qui existent.
Or, et que disent-elles, ces études?
Eh bien, sur la 5G, elles ne disent rien parce qu'il n'y a pas d'études. Donc, on s'apprête à déployer un réseau qui utilisera des ondes d'un genre nouveau qui n'était pas utilisé par les réseaux précédents. Et cela sans avoir la moindre idée des effets que ça peut avoir sur la santé au niveau des humains.
Alors moi, j'ai regardé une enquête de l'Organisation mondiale de la santé qui dit qu'au cours des 30 dernières années, il y a eu 25 000 articles scientifiques qui ont été publiés sur les ondes et qui conclut que plus les résultats de la recherche s'accumulent, plus il devient probable que l'exposition aux champs électromagnétiques ne représente pas du tout de graves dangers.
En fait, tout dépend si on prend toutes les études ou si on prend les études qui sont financées par de l'argent public. Effectivement, les études qui sont financées par l'industrie tendent toutes à montrer qu'il n'y a aucun risque pour la santé humaine.
Et c'est le propos votre bouquin, parce que vous insistez vachement sur le lobby entre les pouvoirs publics et les opérateurs télécoms.
Tout à fait. Et le propos de mon bouquin, en fait, c'est de mettre en avant non seulement ce risque sanitaire qu'on nous fait prendre, puisqu'il n'y a aucune étude actuellement sur ces ondes, mais de le mettre en regard, en plus, avec la société que ça crée. Quand j'entends parler de voitures autonomes, par exemple, moi, ça ne me fait absolument pas rêver. Quel est l'avantage d'une voiture autonome par rapport à un taxi, par exemple?
Oui.
Un taxi, c'est pareil, on est conduit, on va où on veut. Et par contre, une voiture autonome détruit un emploi et consomme plus d'énergie qu'un taxi, puisque pour se conduire toute seule, elle doit être sans arrêt en train de brasser des données et d'être reliée à des antennes.
Mais si ça peut demain révolutionner notre industrie et nous rendre plus compétitifs.
Mais la compétitivité, quel modèle de société on veut en fait ? Par exemple, de la même manière, quand on me dit qu'on pourra réaliser des opérations chirurgicales à distance,
oui.
On gagne peut-être en compétitivité, ok, mais est-ce que c'est
et
ça
qu'on veut ? Et en efficacité de soins aussi.
Non, pas en efficacité de soins. On gagne en efficacité de soins si on n'a rien d'autre à proposer. Si on recrute des infirmières, on a eu la crise du Covid, est-ce que le personnel hospitalier réclamait la 5G de toute urgence ? Non, ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas de blouse et ils voulaient des personnels supplémentaires.
Vous savez ce que c'est ? On va donner la parole à Nicolas Guérin, le président de la Fédération française des télécoms, mais une révolution, avant qu'elle arrive, on ne se rend pas forcément compte des avancées que ça peut représenter. Nicolas Guérin, sur la dangerosité des ondes, que disent vos études ? Alors vous êtes évidemment un peu partie prenante, puisque vous descendez la Fédération des opérateurs télécoms.
Justement, je vais faire bien attention de ne pas parler de nos études, puisqu'il n'y a pas d'études commandées et payées par les opérateurs.
Donc aujourd'hui, on va installer un dispositif dont on ne connaît pas l'impact sanitaire.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'études. Je disais qu'il n'y a pas d'études payées par les opérateurs. En fait, aujourd'hui, il y a 31 pays qui ont lancé dans le monde la 5G. Tout autour de nous en Europe, en Espagne, en Allemagne, en Italie, la 5G a été lancée. Il y a 14 études d'agences sanitaires indépendantes qui ont conclu qu'il n'y avait aucun problème de santé avec la 5G. Et ces agences, ce sont les agences de l'Allemagne, de la Norvège, de la Finlande. On ne parle même pas des agences éventuelles chinoises ou américaines.
Oui.
On parle des agences européennes. 14 études. J'ai recensé 14 études.
Mais est-ce que vous compreniez la défiance d'une partie des Français à qui on avait dit il y a 50 ans, le diesel, ça ne pollue pas, c'est la solution et il n'y a pas de problème pour la santé ?
On comprend tout à fait que ça questionne. Évidemment que ça questionne.
L'histoire nous montre que l'industrie n'a pas toujours eu raison et que les vérités d'un jour ne sont pas forcément les vérités du lendemain.
C'est vrai, mais rappelez-vous, dans les télécommunications aussi, lorsqu'on a eu la DSL, on nous disait la DSL sert à rien. L'analogique suffit.
Oui.
Quand on a eu la fibre, on nous a dit la DSL suffit largement, les débits sont suffisants. Quand on a eu la 1G, quand on a eu le téléphone qui faisait que de la voix, on disait ça ne sert à rien, il y a des cabines téléphoniques et ainsi de suite.
Stéphane Dubreuil, sur cette question de dangerosité, qu'en dites-vous, vous, en tant qu'observateur et spécialiste du secteur ? Faut-il se méfier des ondes ou rien à signaler, circuler ?
Non, moi je ne suis pas du tout comme ça. Je fais partie des gens qui ont cette interrogation en disant effectivement on va dans des bornes. On ne va pas rentrer dedans, mais dans des ondes dites millimétriques, on ne sait pas trop, parce qu'elles étaient utilisées plutôt pour l'armée, les satellites. Là, on va arroser le grand public, donc on ne sait pas trop. Maintenant, là où...
On ne sait pas trop, vous dites quand même.
On ne sait pas trop, parce qu'il n'y a pas de réseau 5G aujourd'hui, réellement.
Oui.
Les réseaux 5G, ils ont quelques mois, donc moi, je veux bien entendre qu'il faut faire des études. On les a déployés, et nous, on nous dit, non, il ne faut plus les déployer, on verra plus tard.
Mais donc, on se lance dans une industrie qui va modifier.
Mais on l'a fait avec la 2G, on l'a fait avec la Bluetooth, on l'a fait avec la télévision. Je vous rappelle les antennes que vous avez, les antennes râteaux que vous aviez à l'époque. Vous n'avez pas hurlé en disant « Attendez, on va se faire irradier la tête ». Donc je trouve qu'il y a... En plus, il y a un débat là, je trouve, qui est pernicieux par le jeune homme à ma gauche. Je suis désolé de vous le dire. C'est que vous mélangez deux sujets, le sanitaire et le politique. Le sujet de la société, c'est autre chose. Et là où je vous en veux, c'est que vous mettez le problème de santé publique au milieu de ça. Ce sont deux problématiques différentes. La société, je veux bien
vous
qu'on en
parle. Vous voulez dire sur le modèle de société.
Exactement. Le modèle de société, c'est autre chose. Sur le sanitaire, je suis désolé aujourd'hui, il n'y a pas de preuves avérées. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de risque ? Non. Je rappelle quand même qu'on a eu des problèmes sanitaires précédents où ils étaient classés dans la fameuse classe 2B et sont passés classe 1 plus tard, dont l'amiante. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas avéré. Par contre, quand j'entends des gens qui disent « c'est avéré, on a les preuves, on a ci, ça », non, ça c'est un mensonge.
Alors on en parle dans quelques secondes justement de ce modèle de société, une nouvelle technologie, est-elle forcément une avancée sociale ? C'est vrai qu'on peut se poser la question, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h41, on est toujours en direct avec le grand débat du Club des Idées. Ce soir, on parle de la 5G. Faut-il en avoir peur ? On en parle avec Nicolas Guérin, président de la Fédération française des télécoms, avec Nicolas Bérard, journaliste, avec Stéphane Dubreuil, spécialiste des télécoms et de l'énergie, avec Delphine Jamet, adjointe au maire de Bordeaux. Vous êtes en charge, madame, du numérique. Alors justement, pour terminer sur ce volet santé, une question pour vous, puisque vous réclamez un moratoire ou un débat public sur la 5G. On est en train d'évoquer, juste avant la pause dans ce débat, le fait qu'on est déjà entouré d'ondes et d'antennes relais depuis maintenant des dizaines d'années partout en France. Pourquoi pensez-vous que la 5G soit plus dangereuse pour la santé que la 4G, la 3G ou la 2G ?
Je n'ai pas dit que la 5G était plus dangereuse, j'ai dit exactement comme votre autre intervenant qu'on n'a pas d'études qui nous permettent de prouver le contraire en fait. Aujourd'hui c'est ça le fond du problème et je voudrais revenir sur ce qui a été dit quand, pour qu'on reprochait à l'intervenant précédent de dire que de mêler politique avec le sujet de société et sanitaire. Et en fait, par contre, il y a un effet sanitaire du numérique et de la connexion permanente, et notamment sur les enfants. Et ça, c'est avéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société hyper connectée. La 5G va nous amener encore plus dans cette société hyper connectée. Et là, vous avez un vrai risque sanitaire, alors pas forcément lié aux ondes, mais par contre risque sanitaire sur une société qui est hyper connectée. Et aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir, se poser, discuter, savoir vers quoi, effectivement, quelle société on veut aller.
Mais on peut discuter pendant des années et puis on est toujours au même point
dans
quelques années.
Donnez-moi les études qui me disent qu'il n'y a rien.
Oui. Oui.
Qui n'a aucun impact. Et effectivement, on ne parle pas de la 26 GHz, c'est-à-dire la 5G millimétrique qui va arriver, qui n'est pas encore en place et qui va arriver et qui annonce non seulement on n'a aucune étude d'impact, mais en plus, là, vous avez des scientifiques qui, eux, notamment les météorologues, qui, eux, craignent des impacts négatifs sur leur modèle de météorologie.
Bien.
Et donc tout ça, en fait, si vous voulez, c'est un tout, la 5G, il ne faut pas le voir comme sur un sujet. Ce n'est pas un sujet uniquement sanitaire. C'est systémique comme problème. Oui. Ça impacte tout le modèle.
Stéphane Dubreuil, sur l'impact écolo, je voudrais juste qu'on en dise un mot. Est-ce que c'est vrai que c'est très énergivore la 5G? Ça sera très énergivore la 5G?
Alors, à part rentrer dans le débat technique, mais non, en fait, c'est une technologie qui est moins énergivore. Sauf qu'elle consommera 30 à 40% de moins à usage constant.
Sauf qu'on va l'utiliser plus.
Voilà.
Et on va être plus gourmand.
Donc, ce n'est pas un problème de la 5G, c'est un problème des utilisateurs.
Oui, mais bon, ça va avec.
Voilà. Donc, mais il y a eu un débat au Sénat, on veut interdire, par exemple, les forfaits illimités. Voilà, les politiques s'en ont. J'entends très bien ce que dit Madame Jamais sur la surexposition aux écrans, mais elle n'est pas liée à la 5G. C'est déjà le cas aujourd'hui. Donc, je veux bien. J'entends, hein, et je suis tout à fait d'accord, moi aussi ayant des enfants. Voilà, je comprends. Néanmoins, il ne faut pas mettre tout sur le sac de la 5G, parce qu'on a l'impression que c'est devenu la techno. Il y a quand même des gens qui vont brûler des antennes pour dire que ça propage le coronavirus.
Oui.
C'est qu'on est dans un délire en ce moment, il faut le dire quand même. Hein. Il y a un moment, c'est aussi une responsabilité des politiques de remettre le débat à plat, faire un moratoire. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce qu'un moratoire, ça veut dire une suspension. On utilise la 4G jusqu'en 2025. La vraie 5G, les 26 GHz, ils arrivent en 2025. Donc pendant 5 ans, je veux bien qu'on fasse des études, mais il n'y a pas de changement par rapport à aujourd'hui. Et quand j'entends ça, je sens qu'il y a des politiques, parce qu'il y a une présidentielle qui arrive, on est en train d'agiter les chiffons rouges, et ça, ça me met hors de moi.
Nicolas Guérin, est-il vrai qu'il va falloir changer tous nos smartphones pour passer à la 5G?
Alors, si vous voulez passer à la 5G, effectivement, il va falloir changer votre téléphone mobile.
Parce que ça, c'est une question un peu malicieuse, mais ça a un coût énergétique aussi.
Oui, mais ayez déjà conscience de la réalité de la connexion de nos concitoyens. Aujourd'hui, on a 77% des Français qui ont un smartphone, d'accord ? 94% l'utilisent chaque jour. 51% des connexions Internet aujourd'hui en France se font via un mobile et 39% via un ordinateur seulement. Et on change chaque année 20 millions de terminaux. Oh, je ne parle pas de 5G, je parle de 4G, de 3G, etc.
Donc vous dites que c'est un non-sujet, de toute façon, les Français changent de terminaux.
Le vrai sujet sur lequel je reviens, que je trouve qui est excellent et qui est le bon, c'est la sobriété. C'est effectivement éduquer les populations, éduquer, et c'est un travail que les opérateurs doivent faire, c'est parler avec les usagers et effectivement avoir une consommation qui est plus raisonnable. Chaque année, l'année dernière, en 2019, on a fait plus 50% de débit sur nos clients, et plus 50%.
Précise, pour que chacun ait l'ordre de grandeur en tête, l'empreinte carbone du numérique, c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre. Autre point, autre inquiétude, faut-il avoir peur de l'intrusion de nos vies de cette nouvelle technologie? Ça pose la question notamment de la souveraineté nationale avec la 5G, des domaines sensibles comme la santé, la défense seront de plus en plus connectés. Donc ça veut dire qu'une quantité colossale de données sensibles circulera, ce qui est autant de failles à exploiter pour les hackers. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Nicolas Bérard?
Mais que, évidemment, la Commission européenne prévoit 75 milliards d'objets connectés d'ici 2025. Tout ça, c'est enregistré, ça fait du big data, ça fait de la consommation d'énergie. Et en fait, on ne peut pas, je vois mes interlocuteurs qui essayent de diviser chaque sujet. On ne peut pas. La 5G, il faut la réfléchir dans sa globalité. La santé, j'insiste, parce qu'on fait prendre un risque puisqu'on n'a pas d'études sur la santé. Donc, il y a un risque, forcément. Les effets environnementaux, ça va consommer de l'énergie, ça va susciter de l'extraction minière pour créer les smartphones, les objets connectés, etc. etc. Et ça crée un modèle de surveillance, un modèle de société avec une archi-surveillance. 70% des objets connectés dans les trois premières années avec la 5G, ce seront des caméras de surveillance auxquelles on va bien sûr associer rapidement la reconnaissance faciale. Donc en fait, c'est vraiment un tout.
Oui.
Et là-dessus s'ajoute un déni démocratique puisque les citoyens n'ont jamais été questionnés là-dessus.
Alors, c'est une bonne question, ça. Est-ce que vous dites, monsieur, vous êtes le président de la Fédération française des télécoms, Nicolas Guérin, vous dites les citoyens l'attendent avec beaucoup d'impatience. C'est vrai qu'il n'y a pas de débat. Est-ce qu'on sait si les citoyens ont envie d'un modèle de société ultra connecté où tout va si vite, c'est-à-dire un modèle de société où le basé sur une forme de consumérisme, d'une certaine manière?
J'ai deux indicateurs pour dire qu'effectivement il y a une attente. C'est les usages que je viens de décrire, hein, qui sont massifs, qui doublent chaque année, qui ont été multipliés par 3 depuis 2016, donc un besoin de débit de plus en plus important. C'est mon premier indicateur. Le deuxième indicateur, je suis désolé, mais c'est qu'on essaie de faire des sondages pour voir effectivement si la 5G est attendue. Et les sondages sont bons et de mieux en mieux.
C'est-à-dire qu'il y avait quand même 29% des Français qui disent s'en méfier.
Oui, mais ils s'en méfient alors qu'ils ne l'ont pas encore vu. Oui. Quand vous faites les mêmes sondages en Roumanie ou en Pologne où la 5G est lancée, vous inversez complètement, vous êtes à des 90% de satisfaction face à la 5G.
Dans le tout connecté, il n'y a pas une forme de contrôle social de la machine sur l'humain quand même?
Mais vous savez quand même qu'on est dans un pays où la réglementation est au sein d'une Europe, où la réglementation qui protège les consommateurs est quand même extrêmement développée et poussée. Aujourd'hui, vous avez les moyens, vous avez des droits à l'oubli, vous avez un droit à la déconnexion, vous avez un tas de droits qui vous sont garantis, qui vous permettent d'éviter que toutes ces données ne soient partagées.
Bien, Stéphane Dubreuil, sur cette idée de contrôle social et de modèle de société, vous l'évoquiez tout à l'heure, de la 5G, est-ce que les Français ont vraiment envie de cette société-là demain?
Alors, le contrôle social, c'est un terme qui est quelque chose qui est développé en Chine, effectivement, et c'est pour ça que c'est intéressant ce que vous évoquez, c'est que effectivement, on voit qu'une la deuxième puissance, voire peut-être la première en ce moment, a développé une note sociale avec de la reconnaissance faciale. Ça va même très très loin, je ne vais pas rentrer dedans, mais voilà. Effectivement, on pourrait avoir peur de l'avoir chez nous. Maintenant, effectivement, je pense qu'on a des garde-fous, la RGPD, la CNIL. Ça ne veut pas dire que tout est facile. Je dis juste que je trouve assez bizarre de reporter tout sur la 5G quand on voit qu'on a des GAFA comme Facebook. Peut-être vous donnez plus de données sur Facebook que jamais on n'en aura sur le... Je ne sais pas, il n'y a pas d'allusion, il n'y a rien. Voilà.
C'est un bon argument.
Peut-être Instagram, etc. Donc je trouve ça un peu... voilà.
Bien, merci à tous les quatre, merci à tous les trois ici en plateau. On est obligé de s'arrêter, c'est vrai qu'il y a encore plein de choses et de questions à se poser, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici quelques semaines et quelques mois. Merci. Dans un instant, le Club des idées se poursuit avec notre séquence, le jour où, et on vous racontera, figurez-vous, la naissance secrète du premier iPhone. C'était en 2007, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Europe Soir qui se poursuit à 19h53, toujours en direct avec le Club des idées d'Europe Soir. Et maintenant, un coup de rétroviseur comme chaque soir. On prend du recul, on plonge dans les archives pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
Une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Clément Le Saffre.
Bonsoir.
Alors, avant l'arrivée de cette 5G dont on parlait à l'instant avec nos invités, eh bien, il y a eu le premier smartphone. Ça paraît si loin et pourtant c'était hier, en janvier 2007, Apple sort son premier iPhone.
Oui, ça paraît fou, non? À l'époque, on était en 2G, il faut se rendre compte, on parlait de la 5G, on était en 2G à l'époque, c'était il y a 13 ans, un battement de cils dans l'histoire, mais une éternité pour les technologies. À l'époque, le Nec Plus Ultra, c'était les téléphones à clapet, les BlackBerry, et on n'était pas si loin des Nokia 3310.
Mais ça, c'était avant le 9 janvier 2007.
Oui, ce jour-là, Apple a convoqué la presse et les technophiles du monde entier à San Francisco. En ce temps-là, Apple, c'est deux choses, le Mac et l'iPod, mais c'est sur le point de changer quand Steve Jobs, l'iconique patron de l'entreprise, monte sur scène.
Today, Apple is going to reinvent the phone.
Pull, col roulé noir, jean informe, basket usé, on connaît tous son look. Oui. Steve Jobs fait durer le suspense quelques minutes avant de présenter sa révolution.
An iPod, a phone, and an internet communicator. These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone.
Alors, on l'entend, une ambiance digne d'un concert de rock pour un simple téléphone dans le public. Il y a notamment Eli Abitbol, un revendeur Apple agréé. Il est venu de Nice spécialement pour découvrir l'iPhone en live à San Francisco. Il est interrogé par Europe 1 à la sortie et il est sous le charme.
C'est hallucinant, quoi. On a vu des choses incroyables. On a l'habitude de voir des trucs sympas chez Apple. Mais là, je crois que c'est une des plus belles intros produits qu'ils aient fait depuis qu'ils existent. Donc pour l'instant, on est sous le choc, on attend de voir ce téléphone et on attend surtout de pouvoir en avoir un.
Voilà, c'était il y a 13 ans, c'était il n'y a pas si longtemps. Alors là, on est en janvier, l'iPhone est arrivé en novembre 2007 en France. Quelles étaient les réactions à l'époque ?
Il y avait de l'excitation, forcément. Tout le monde voulait essayer cet appareil utilisable avec un seul doigt. Rétrospectivement, ça nous paraît enfantin aujourd'hui, mais à l'époque, ça suscitait pas mal d'interrogations, même chez les pros. Didier Lombard, par exemple, le patron de France Télécom à l'époque, était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach juste avant le lancement en France. Et ensemble, ils tentaient de cerner cet étrange objet.
Voilà, alors on tourne les pages comme les pages d'un livre.
Comme les pages d'un livre ou comme l'ouverture des mâles dans la caverne d'Ali Baba, vous appuyez sur un des petits carrés et vous rentrez dans un des menus.
C'est-à-dire qu'il suffit de toucher du doigt l'icône téléphone et on accède à un clavier sur lequel on compose son propre numéro.
Oui, alors il ne faut pas oublier que sa principale utilité, c'est d'être un téléphone.
Hein. Mmh. Voilà, c'était pas simple. Hein. Et 13 ans et 25 modèles.
On a bien appris depuis.
On a bien avancé ça. Il y a eu 25 modèles d'iPhone depuis, donc on est un peu habitué. C'est toujours une référence, mais ce n'est plus la seule. Hein. Samsung, LG, Sony, Huawei, tous les fabricants se sont mis à faire des smartphones de grande qualité, avec parfois un peu moins de réussite pour certains. Une offre abondante qui fait quand même qu'aujourd'hui, les trois quarts des Français ont un smartphone dans leur poche.
Alors c'est quoi l'avenir maintenant ? On parlait de la 5G avec les invités du débat du Club des Idées. C'est ce qu'il y a dans le téléphone, mais pour le téléphone en lui-même.
On sent bien qu'on approche quand même à la fin d'un cycle, celui impulsé justement par l'iPhone, après des années de peaufinage, d'amélioration qu'on ne voit parfois pas. Le smartphone tel qu'on le connaît, il a atteint son plein potentiel. C'est un outil professionnel, c'est un écran pour regarder des séries, c'est une mini console de jeux vidéo, c'est aussi un appareil photo ultra sophistiqué. Alors les fabricants tentent d'inventer aujourd'hui le smartphone du futur. Ce sera peut-être un téléphone pliable avec un écran souple. Les modèles arrivent au compte-gouttes en ce moment. En début d'année, Guillaume Berlemont, le directeur marketing de Samsung France, expliquait à Europe 1 pourquoi il faut croire au téléphone pliable.
La demande est la même depuis maintenant près de 10 ans, c'est d'avoir toujours des plus grands écrans pour pouvoir améliorer, fluidifier sa consommation de contenu. Et on estime que d'ici 5 ans, plus de 80% des smartphones dans le monde seront des modèles qui se plient.
Voilà, alors rendez-vous en 2025 pour voir quel sera le successeur de l'iPhone pour le statut de révolution.
J'espère que vous serez là, et moi aussi d'ailleurs. Merci Clément Le Saffre. Tous les soirs, on regarde dans le rétro avec cette séquence d'Europe Soir qui s'appelle « Le jour où ».
Europe 1, Julien Bugier.
Un grand merci à l'équipe d'Europe Soir en cette fin de semaine, à la préparation Christophe Carré, Marie-Baptiste Duhard, Victor Chabert, Anne-Claire Bazin, Vincent Thévenet à la réalisation, Anissa Haddadi à la météo et bien sûr l'immense Isabelle Millet pour les journaux. Nous on se retrouve même lieu, même heure, lundi à 18h pour le Club des Idées, pour Europe Soir, et dans un instant c'est Émilie Mazoyer qui nous fait chanter, qui nous fait rêver, qui nous détend. On la retrouve juste après le journal. Ciao, bon week-end.